Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Voilà plus d'un an que les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp sont bloqués au Tchad. Les autorités invoquent des raisons sécuritaires. Il s'agirait d'éviter, par exemple, les contacts via le net entre terroristes. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles, crient à la censure. Elles dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Qu'en pensez-vous? Pour qui les réseaux sociaux sont-ils dangereux? On attend vos réactions au standard au 33 9 693 693 70 ou contactez-nous sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme chaque matin, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. Depuis le massacre d'Ogossagou au Mali, ce village Peul dont quelques 160 habitants ont été tués le 23 mars dernier, les associations de défense des Peuls ont accusé le groupe d'autodéfense communautaire d'Anna Ambassagou d'être responsable du massacre, un groupe dissous par le gouvernement malien par décret depuis le dimanche 24. Mais ce groupe ne semble pas décidé à rendre les armes. Kalilou, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Cotonou au Bénin. Pour répondre à vos questions, Coralie Pierret, notre correspondante au Mali, est en ligne de Bamako. Bonjour Coralie.
Bonjour à tous.
Kalilou, on vous écoute.
Comment est-ce que la Malaisie justifie-t-elle ce refus et comment est-ce que le gouvernement a réagi à ce refus?
Voilà, donc Coralie, comment la milice justifie-t-elle son refus de rendre les armes?
Alors, par des messages audio qui circulent sur le réseau social WhatsApp, effectivement, le chef d'état-major du groupe d'Anna Ambassagou, qui s'appelle Youssouf Toloba, exprime clairement son désaccord avec la décision du gouvernement de dissoudre cette association. Alors, je parle d'association puisque, officiellement, ce groupe d'autodéfense armée avait un statut légal d'association. Elle avait reçu un récépissé, confirmait encore vendredi le ministre porte-parole du gouvernement au micro de RFI. Alors, dans son message audio, Youssouf Toloba, dit n'être prêt à déposer les armes qu'à une condition, si les gens de la brousse laissent les armes, dit-il, sous-entendu les groupes djihadistes du centre du Mali, Anna Ambassagou fera de même. Tant que cela n'est pas fait, nous n'abandonnerons pas nos armes, ni aujourd'hui, ni demain.
Coralie, est-ce qu'il y a une radicalisation de ce groupe d'autodéfense depuis la semaine dernière?
Alors, difficile de l'affirmer avec certitude puisque jusqu'à présent, Youssouf Toloba, le chef de la branche militaire de Anna Ambassagou, ne s'exprimait pas, en tout cas pas de manière publique. Et même la branche politique de ce groupe était vraiment discrète. Jusqu'alors, en tout cas publiquement, il n'avait pas posé d'acte de rébellion contre l'État et n'était pas officiellement contre l'État. Eux assuraient qu'en l'absence des autorités ou de l'armée dans certaines zones, le groupe s'était constitué justement pour se substituer à l'État et défendre leur communauté, c'est-à-dire celle des Dogons, de l'ethnie Dogon, face aux incursions djihadistes. D'ailleurs, Toloba le dit lui-même dans son message audio. Auparavant, Anna Ambassagou ne combattait pas l'État, dit-il, mais l'État est venu nous provoquer, alors nous sommes prêts, nous n'avons pas peur. Et puis, il va même un petit peu plus loin, sans parler d'autonomie, mais il dit, s'ils ne veulent pas du pays Dogon, qu'ils le disent. Dans ce cas, nous allons chercher à nous administrer nous-mêmes, que tout le monde l'entende.
Kalilou, est-ce que vous avez une autre question pour Coralie Pierret?
Oui, les 5 suspects arrêtés ont-ils un lien avec le Anna Ambassagou?
Coralie?
Alors, mardi, le gouverneur de Mopti assurait qu'un suspect blessé s'était rendu à l'hôpital et qu'il avait été arrêté et remis à la justice. Lui, toujours selon le gouverneur de Mopti, appartenait à la milice d'Anna Ambassagou. Puis, dans la semaine dernière, le procureur de Mopti, cette fois le procureur en charge de l'enquête, a révélé que plus seulement un, mais 5 suspects avaient été arrêtés, traduits en justice et transférés à Bamako. Ces 5 suspects avaient aussi était blessé pendant l'attaque, mais le procureur de Mopti n'a pas confirmé leur appartenance au groupe d'Anna Ambassagou. De son côté, le président de la coordination nationale de cette milice, Mamadou Goudienkile, affirme toujours qu'ils ne sont pas responsables de ce massacre et que, je cite, l'État voulait leur faire porter le chapeau. Pour Tabital Poulakou, une association de défense de la communauté Peul, la dissolution tardive de cette milice, pointée plusieurs fois du doigt par cette association, confirme, dit-elle, le soutien de l'État à cette milice. Il faut rappeler et souligner qu'à plusieurs reprises, il y a eu des rumeurs qui soupçonnaient l'État de soutenir ce groupe d'autodéfense sous couvert de luttes antiterroristes, car dans cette zone sont présents des groupes djihadistes lié à Amadou Koufa, le prédicateur Peul, au centre du Mali.
Merci beaucoup Coralie Piret d'avoir fait le point pour nous sur cette affaire dont on suivra bien sûr l'évolution sur notre antenne. Kalilou, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Cotonou. On change de continent. L'Inde a détruit mercredi d'un tir de missile un satellite situé à 300 km de la Terre en orbite. L'Inde fait désormais partie avec la Chine, les États-Unis et la Russie du club très fermé des pays à pouvoir accomplir une telle prouesse technologique. Idriss, bonjour, vous nous appelez d'Abidjan.
Bonjour Chantal, bonjour Juan Gomez depuis son lieu des vacances et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Ah, je crois que Juan est rentré, vous le retrouverez demain. Pour répondre à vos questions, Idriss, nous avons en ligne Jean-Vincent Brisset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des questions de défense en Asie du Sud. Idriss, quelle est votre première question pour Jean-Vincent Brisset?
D'accord. Alors Chantal, quels sont les intérêts politiques pour l'Inde à démontrer qu'elle dispose d'une telle technologie?
Jean... Et la course... Bon, on revient, on passera tout à l'heure à votre deuxième question. Jean-Vincent Brisset.
Alors, il y a deux intérêts pour l'Inde. Un intérêt qui est un intérêt mondial, hein, comme vous l'avez souligné dans votre présentation, l'Inde démontre ainsi qu'elle a une technologie qu'elle partage avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Hein, ce qui fait qu'elle est dans un club extrêmement fermé de quatre pays qui sont capables de détruire un satellite en orbite, le tout étant dans l'ensemble d'un programme de anti-missiles hein, qui va beaucoup plus loin que le programme anti-satellite. Et pour l'Inde, le deuxième intérêt, c'est de démontrer qu'elle est capable de contrer quelque chose qui pourrait venir de l'espace venant de l'un de ses deux adversaires potentiels, qui sont le Pakistan le petit et la Chine le gros, sachant que le gros fournit quand même au petit l'essentiel de ses moyens les plus sophistiqués.
Mais il y a aussi un intérêt ou des visées électoralistes derrière cette annonce pour le Premier ministre Narendra Modi.
Alors, ça, ce sont des intérêts politiques intérieurs, évidemment, mais c'est quelque chose qui est constant dans la politique de l'Inde et dans une partie de sa gestion des nouvelles technologies. L'Inde cherche à démontrer, enfin, les gouvernants indiens cherchent à démontrer vis-à-vis de leur propre pays qu'ils ont une technologie de haut niveau et, accessoirement, qu'ils mettent en œuvre des moyens suffisants pour contrer les adversaires éventuels, donc le Pakistan et la Chine, toujours.
Idriss, est-ce que vous avez une autre question pour Jean-Vincent Brisset?
Oui, j'ai une dernière question, Chantal. La course à la destruction des satellites a été relancée dans les années 2000, notamment par les États-Unis, la Russie et la Chine. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt?
Jean-Vincent Brisset.
Alors, il y a un double regain d'intérêt. Le premier, c'est que de plus en plus, les satellites sont devenus indispensables au fonctionnement des moyens militaires, hein, que ce soit des satellites de télécommunication, de relais de communication, que ce soit des satellites espions, qui sont des satellites qui font des photos, qui font de l'écoute électronique, hein, et qui font toutes ces missions de reconnaissance sur un pays potentiellement adverse. Donc, dans les années 2000, le nombre de tels satellites, qui sont souvent des petits satellites, a été multiplié et il est évident qu'ils font partie maintenant de l'armement d'un pays, d'une manière ou d'une autre, même si la militarisation de l'espace est théoriquement exclue.
Et puis, une
deuxième chose, si vous voulez, c'est que avant les années 2000, on savait, les États-Unis et la Russie, enfin l'Union soviétique, savaient théoriquement intercepter un satellite, mais pour l'intercepter, ils étaient obligés de recourir à des moyens extrêmement violents, c'est-à-dire à une explosion et vraisemblablement une explosion nucléaire, parce qu'ils ne savaient pas techniquement avoir une précision suffisante. À l'heure actuelle, détruire un satellite, ça ne se fait plus par une explosion, ça se fait par une percussion directe, une collision qui est provoquée parce qu'on arrive à faire en sorte que deux objets qui se déplacent à quelques milliers de kilomètres heure chacun arrivent à passer à quelques centimètres l'un de l'autre et donc à se détruire mutuellement.
Mais que deviennent les débris des satellites détruits dans l'espace ? C'est ça le problème, non ?
C'est un vrai problème parce que, comme je le disais, il y a de plus en plus de satellites en orbite basse qui ont un intérêt militaire et pas seulement militaire. Et il y a de plus en plus de débris. Enfin, il y a des débris qui sont naturels parce que ces satellites se cassent tout seuls, parce qu'ils perdent des morceaux. Ça a l'air bizarre, mais il y a les satellites qui perdent des morceaux. Et puis, il y a le fait que maintenant, avec ces expérimentations qui consistent à détruire les satellites en orbite, à chaque fois, ce sont des milliers de débris supplémentaires qui risquent de rentrer en collision, en particulier avec les panneaux solaires qui servent à faire fonctionner les autres satellites.
Merci beaucoup Jean-Vincent Brisset d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À bientôt. Idriss, merci pour votre appel et bonne journée à Abidjan. On part à présent pour Arada au Tchad. Hamid, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et bienvenue à Arada El Beher.
Également en ligne avec nous, Hélène Combes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste du Mexique. Hamid, on vous écoute.
Oui, le président mexicain a demandé la semaine dernière des excuses à l'Espagne pour les abus commis lors de la conquête espagnole. Alors, ma première question est de savoir pourquoi le président demande des excuses maintenant alors que ces crimes ont été commis il y a des centaines d'années.
Hélène Combes.
Oui, alors je pense que le président mexicain López Obrador, qui est arrivé au pouvoir il y a quelques mois, s'inscrit dans un temps mémoriel mondial. Il est à la mode de demander des excuses et il faut préciser que c'est la première fois que la gauche est au pouvoir au Mexique. Et donc évidemment, ces revendications mémorielles s'inscrivent aussi dans ce positionnement politique. Mais je voudrais préciser que ces demandes d'excuses sont assez minimales. C'est juste des demandes d'excuses. Il n'y a pas de demande d'indemnisation ou pas de demande de restitution de biens. Ils demandent en fait des excuses au roi qui représentent la continuité monastique depuis l'époque de la conquête.
Hamid, vous avez une autre question pour Hélène Combes ?
Oui, l'Espagne a refusé de présenter ses excuses au Mexique. Comment justifie-t-elle ces refus ?
Hélène.
Alors, c'est extrêmement intéressant. En fait, moi, je vis actuellement à Séville, et en étant spécialiste du Mexique, je suis vraiment frappée à quel point l'Espagne vit dans le culte de la conquête des Amériques. Quand vous allez dans un village qui a eu un conquistador, on peut visiter sa maison, il y a des statues. Et par ailleurs, je me souviens que même au centre culturel espagnol de Mexico, trônait la statue de Cortés. Donc imaginez, par exemple, la statue d'un militaire français de la conquête algérienne à l'entrée du centre culturel d'Alger. Et en fait, le fait qu'il y ait la statue de Cortés au centre culturel espagnol est finalement très choquant pour les Mexicains. En fait, le refus d'excuses n'est pas lié à l'éloignement des faits dans le temps. Je rappelle que en 2015, le gouvernement espagnol a offert ses excuses et des réparations aux communautés safaris, donc les Juifs, c'est en 1492, et a donné la possibilité aux descendants d'avoir la nationalité espagnole. Donc on voit bien que cette question du refus des excuses vis-à-vis de la conquête espagnole est vraiment liée à cette vision héroïque et civilisatrice de la découverte des Amériques. Et là, peut-être quand même, il faut revenir sur quelques points. Hein. La conquête espagnole, ça a été un effondrement démographique de 70%. Et comme le dit l'historien mexicain Eric Esemo, c'est une blessure historique qui a en partie conditionné le développement national, même après l'indépendance au début du 19e, notamment en termes de violence chronique, de racisme, de structures sociales très inégalitaires. Et c'est intéressant parce que ça a aussi suscité des débats importants au Mexique.
Mais en même temps, on a l'impression qu'au Mexique, l'initiative du président López Obrador n'a pas déclenché beaucoup d'approbation.
Alors, c'est à resituer dans le temps politique. Donc, cette question de la reconnaissance de la conquête comme une dévastation est une vieille revendication du mouvement indigène. Elle remonte aux commémorations de 1992, qui est considérée d'ailleurs en Amérique latine comme le moment d'émergence des mouvements indigènes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le mouvement indigène au Mexique a considéré que cette demande était plutôt une simulation et que López Obrador ferait mieux de se préoccuper de la situation des populations indigènes actuelles. Et donc ça renvoie à des difficultés qu'il rencontre actuellement dans sa politique intérieure. Donc, il a proposé un projet de développement de la péninsule du Yucatan qui a été rejeté par les mouvements indigènes, notamment par le mouvement zapatiste. Et plus généralement, les organisations indigènes mettent en avant le fait que les entreprises espagnoles sont très présentes sur le territoire. On est dans une phase où il y a un renouveau minier, au Mexique, comme partout en Amérique latine et en Afrique aussi d'ailleurs, et que les entreprises espagnoles mettent en danger des populations indigènes et que c'est à cette question-là qu'il faudrait s'attaquer.
Merci beaucoup Hélène Combes d'avoir été en ligne avec nous. Hamid, bonne journée à Rada. Ce sera notre débat tout à l'heure de la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Un an déjà que les Tchadiens sont privés de réseaux sociaux. Les autorités invoquent des raisons sécuritaires, la menace du terrorisme pour justifier le blocage de Facebook, Twitter, Viber ou encore WhatsApp. Armand, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan. En ligne avec nous également, Julia Ouono, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocate, directrice exécutive de l'ONG Internet sans frontières. Armand, vous avez la parole.
D'accord Chantal. Alors, j'ai juste une question déjà pour commencer. Pourquoi cette censure dure-t-elle aussi longtemps déjà?
Julia Ouono.
Oui. Oui, alors, merci pour la question. La censure dure longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas la première fois que le régime tchadien s'adonne à une telle censure. En 2016, après l'élection présidentielle, les réseaux sociaux avaient également été coupés de avril 2016 jusqu'à décembre 2016. Il avait fallu à l'époque que le rapporteur spécial de l'ONU envoie une communication à l'État pour qu'une demande d'explication sur cette censure pour que le régime réagisse et finisse par rétablir les réseaux sociaux. Deuxième raison, c'est que dans ce genre de cas, ce qui marche, c'est la pression internationale. Or, en l'occurrence, jusqu'à très récemment, c'était seulement nous, les associations de société civile, notamment Internet sans frontières, mais au Tchad ou bien ailleurs, qui nous mobilisions sur la question. Donc forcément, c'est pas un point de pression très important pour un régime comme le Tchad, qui, il faut le rappeler, est aujourd'hui allié de beaucoup de puissance et de démocratie dans la lutte contre le terrorisme dans la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, le manque de pression internationale fait que le régime se sent presque impuni de produire, de se comporter ainsi, alors même que, il faut le rappeler, l'accès à Internet aujourd'hui est considéré au moins comme un droit. En tout cas, la liberté d'expression sur Internet est considérée comme un droit fondamental au même titre que les autres et elle est protégée par les textes internationaux, notamment signés dans le cadre de l'ONU, auquel le Tchad lui-même est parti. Et ne serait-ce qu'à ce titre-là, il devrait y avoir des pressions internationales, qu'elles émanent de l'ONU ou bien qu'elles émanent de partenaires comme la France ou comme les États-Unis pour mettre fin à cette situation.
Armand, vous avez une autre question pour Julia Ouono?
Oui, d'accord. Alors, quelle disposition l'opposition et la société civile tchadienne prennent-ils pour briser cette censure?
Brièvement, Julie.
Oui, nous avons déposé des actions en justice au Tchad qui ont été refusées, donc nous allons aller au niveau régional, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais également, nous avons mis en place une campagne pour permettre aux personnes d'accéder de contourner la censure en utilisant ce qu'on appelle des VPN, qui leur donnent en gros une adresse IP qui n'est pas la leur et qui permettent d'accéder à des sites bloqués au Tchad. Mais c'est pas suffisant, nous allons continuer la mobilisation. Nous avions une manifestation à Paris récemment, nous avions une conférence à N'Djamena le 28 mars pour commémorer les 1 an de la censure, auxquelles nous avons convié les autorités mais qui n'ont pas daigné répondre. Donc nous allons continuer les actions et surtout mobiliser les partenaires internationaux du Tchad pour forcer ceux-ci à prendre position et forcer le gouvernement tchadien à réagir.
Merci beaucoup Julie Ouono et merci à Armand depuis Abidjan.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.